à Rimont, le 29 octobre 1995. Première conférence.
Nous allons continuer d'entrer de la manière la plus intime, la plus profonde, dans ce mystère dans lequel nous sommes. Le danger toujours, c'est de considérer l'Église comme extérieure. Le laïc considère la hiérarchie comme le patron. Alors on a la dialectique du maître et de l'esclave dans une perspective hegelienne. Et ça existe très très fort maintenant. Le grand patron, c'est le pape. Alors il fait toutes les bêtises possibles. Puisque c'est le patron qui fait toutes les bêtises, c'est à cause de lui que ça marche. Depuis Freud qui a tué le père, c'est ça. Et puis, l'autre attitude, ceux qui sont dans la hiérarchie confondent autorité et pouvoir. Vieille confusion qui, quand elle tombe dans le point de vue ecclésiastique et pontifical, arrive jusqu'à la jalousie par rapport au Christ. Et c'est vieux, puisque ça a commencé comme ça. Et le démon a des disques, parce qu'au fond, il a perdu le sens de la finalité. Et quand vous perdez le sens de la finalité, vous avez des disques. L'éternel retour de Nietzsche, c'est un disque. Alors, le premier passage, puisque l'éternel retour, il faut bien changer. Alors on danse, plutôt qu'on marche. Et on fait autre chose, on invente tout le temps quelque chose de nouveau, la créativité, pour que l'éternel retour ne soit pas univoque. Alors, il y a la créativité. Et au fond, c'est très très net ça. Le démon a des disques. Et une fois qu'on le... Il n'a plus de finalité, le démon. Il n'a plus que l'efficacité. Et il se jette dedans. Il ne peut pas supporter l'Église. L'antithèse de l'Église dans l'Apocalypse, créée par le démon, faut pas l'oublier. La bête de la terre et la bête de la mer. Et je crois que c'est assez net, la bête de la mer. Peut-être Marie, comme antithèse. Et la bête de la mer, de la terre, la hiérarchie. On va essayer de comprendre ça, parce que c'est intéressant. Nous sommes dans une église militante, faut pas l'oublier. C'est-à-dire une église qui lutte, qui lutte, qui lutte tout le temps. Et si on perd le sens de la finalité, alors on tombe dans l'éternel retour. De Nietzsche, c'est de Nietzsche ça. L'éternel retour, faut pas l'oublier. Comme la créativité, c'est nietzschéen. Et ça se tient les deux. Alors avant de voir ça, puisque il faut quand même répondre aux questions. Pourquoi ne retenez-vous pas, pour parler du mystère de l'Église, de l'énergie du peuple de Dieu, sur laquelle le Concile Vatican II a tellement insisté. Oui, oui, il a tellement insisté, c'est pour ça que j'insiste moins, pour que vous compreniez mieux. C'est pas que je suis pas du tout pas. Mais l'analogie du peuple, c'est quoi? Hein? Si vous avez fait un tout petit peu de philosophie, vous savez que la philosophie politique implique l'éthique et le facere. C'est second. Or, l'éthique, le sommet de l'éthique, c'est l'époux et l'épouse. Et Terre aurait voulu être l'épouse de son peuple. C'est une drôle de façon C'est comme ça qu'on faisait des enfants pour Hitler. Et Mitterrand a voulu la génération Mitterrand. C'est curieux comme on loge tout le temps sur la famille. Parce que la famille donne des enfants. Et l'État ne donne pas d'enfants. C'est désastreux. Alors on voudrait en faire. Alors la paye, l'instruction. L'État prend possession de la paideia de l'éducation. Alors que l'éducation relève à la famille en premier lieu. Et l'État en prend possession. Et va en prendre possession d'une façon absolue. L'État ne donne des grades qu'à ceux qui passent par la filière. Ça, c'est toute la sociologie, c'est tout le point de vue socialiste poussé à l'extrême. C'est intelligent du reste, parce que c'est comme ça qu'on fait des citoyens. Alors, c'est intéressant de voir que la politique, le peuple, du point de vue philosophique, c'est toujours l'équilibre entre le point de vue moral et le point de vue du facere, du travail. C'est toujours les deux grands points de vue. Alors on pourrait trouver toutes les diverses conceptions du peuple, de la nation, en fonction de ces deux équilibres. Qu'est-ce qui est premier ? Le point de vue moral ou le point de vue du facere ? Machiavel, c'est le facere. Le point de vue moral disparaît. Et Platon, c'est le point de vue de la contemplation. Troisième système. Pour Aristote, c'est l'éthique, mais il faut le facere. Le point de vue politique implique le travail et implique l'efficacité dans le travail. Implique le développement de la science et de la technique aujourd'hui. Mais c'est pas premier. Le jour où ça devient premier, c'est l'économie qui passe devant tout. Or, aujourd'hui, on est commandé par l'économie. Ce qui devrait être la disposition devient la détermination. Et ce n'est plus l'homme dans sa finalité. Alors, je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas du tout contre, je vais parler du peuple et de la famille. Mais j'ai dit, voyez, comme on ne peut pas tout voir, j'ai pris ce que saint Paul nous dit. Parce que je crois que c'est cela qui est l'essentiel. Mais le peuple, ça se ramènerait. C'est ce que je vous avais dit hier. Mais je le précise, et c'est bien. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple. Tout le temps. Avec Moïse. Vous voyez ? Dans l'Ancien Testament, vous avez d'abord le Père. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Les patriarches, c'est des pères et des grands-pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'est pas le Dieu de Moïse. Ben, c'est la famille. C'est quand même la famille qui commence. Hein. Ça, on ne peut pas nier. C'est net, en grosses lettres. Les trois. Les trois pères. Parce que c'est l'image de la très sainte Trinité, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est. Et de là va naître le peuple de Dieu, Moïse, le peuple. Alors, avec le peuple, il y a la loi. Avec la famille, on est au-dessus de la loi. Tandis que le peuple, Moïse, et c'est Moïse. Moïse, le législateur. Alors, ne dites pas, ça c'est l'ordre génétique. Et dans l'ordre parfait, on passe d'abord du peuple. Non. Ce qui est premier dans l'Église, c'est le Christ, qui est tête, qui est époux, qui est père. Ça c'est sûr. Et l'Église est toute liée à cela. Si on ne voit plus cela, on devient des orphelins. Et on devient le peuple. Et la loi passe devant. Et il n'y a plus ce caractère premier d'amour. Je crois que c'est très important de voir. Voyez, Genèse, Exode. Et ce qui me frappe énormément, c'est que dans Israël, chez les Juifs actuels, on parle tout le temps de Moïse et très peu des patriarches. Alors que les pères de l'Église parlent beaucoup des patriarches et de Moïse. Mais les patriarches font comprendre Moïse. Mais le peuple commence avec Moïse, ça c'est sûr. Et c'est parce que la famille s'est, en quelque sorte, a disparu dans le peuple que c'est si difficile de maintenir cette ouverture du dépassement de la loi. Toute la difficulté pour le peuple d'Israël, c'est de dépasser la loi pour redécouvrir le Père, le Fils, l'Esprit, la famille. C'est le passage du peuple à la famille. Je crois que c'est quelque chose de très très important et de capital. Mais la famille première. Or, vous avez, je vous l'ai dit, on regarde le point de vue de l'unité. Et le Saint-Père nous le demande. C'est pour ça que j'ai fixé sur l'unité. On pourrait, je ne sais pas du tout, opposer ce que je vous ai dit, c'est un point de vue. L'Église est tellement riche comme vision. Il y a l'aspect, ce que nous allons voir maintenant, l'aspect communauté et l'aspect ordre hiérarchique. L'unité, elle est à la fois dans la communauté. La communauté, elle est famille, elle est peuple. Mais la communauté la plus parfaite, fondamentale, c'est la famille. Et dans la famille, qu'est-ce qui est la clé ? L'amour de l'époux et de l'épouse. Donc voyez, en voyant les analogies, en voyant les analogies de époux, épouse, en voyant l'analogie du temple, pierre angulaire, on a les deux qui nous font comprendre le peuple et qui nous fait comprendre le corps mystique, la famille. La famille a quelque chose de substantiel. C'est pour ça que c'est une communauté fondamentale. Parce qu'il y a la fécondité. Alors, je vous ai dit hier, tout se termine par le mystère de la fécondité. Saint Jean, chapitre 15. C'est exprès que j'ai pris ça. C'est pour que vous arriviez à comprendre ça. Or, la fécondité, vous ne la comprenez pas par le peuple. Je ne dis pas que le peuple, c'est la stérilité, mais, voyez, c'est le peuple. Regardez ce qui se passe en Chine. Regardez ce qui se passe en Europe. La stérilité. On n'a plus le sens de la fécondité. C'est perdu. Et ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrape pas. On va vers l'infécondité. Parce que tellement le point de vue du peuple l'emporte. C'est très bien l'analogie du peuple, je suis tout à fait d'accord, et elle est très importante. Mais corrigeons-la toujours par le point de vue de la famille, parce que la famille seule nous fait comprendre le point de vue de la fécondité. Or, ce qu'il y a de premier dans la très sainte Trinité, c'est la fécondité. La fécondité en Dieu. Et l'Église est l'Église de la très sainte Trinité par la fécondité. Vous voyez, c'est pour cela qu'hier, vous voyez, j'ai insisté que le chapitre 15 de l'Évangile de Jean est si important. je crois cela que aujourd'hui nous devons montrer d'une manière très particulière, parce que c'est là où l'attaque du démon est la plus perfide. J'ai aimé, c'est une remarque rude, mais j'ai aimé le jugement de Ratzinger quand il disait à propos de ces déviations théologiques multiples, diverses, auxquelles il est très attentif, hein, parce que c'est un théologien. Et Ratzinger parlait de ces théologiens inféconds, stériles. Et c'est vrai, parce qu'on oublie la famille. Voyez, l'alpha, l'oméga. C'est la ligne de fond. Et c'est ça qu'on doit toujours chercher. La théologie n'a d'intérêt que si elle est une sagesse. Et donc il recherche la ligne de fond de l'Esprit Saint dans sa conduite. Or, ça me semble extrêmement net que c'est la famille et la très sainte Trinité, les trois personnes. C'est l'Église de la très sainte Trinité par le Christ. C'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Alors, c'est très bien. Oui, toujours intéressant de remonter par une question. C'est très bien d'avoir posé. Hein. Je ne suis pas du tout contre le point de vue du peuple. Mais ce n'est pas primordial. Voilà ce que je veux vous dire. Du reste, le Concile le considère tout à fait comme ça. Dans le Lumen Gentium, il considère que le corps mystique, c'est l'aspect premier. Et le corps est lié à la famille. C'est la famille qui nous fait comprendre ce que c'est que le corps et le respect à l'égard du corps. C'est la famille. Le peuple risque toujours d'utiliser le corps sans le respecter. Il y a là quelque chose qui me semble important. Voyez, donc c'est pas du tout, voyez, c'est pas du tout opposé. C'est chercher ce qu'il y a de plus radical dans la révélation sur l'Église. Et ça me semble, vous voyez, tout à fait dans le sens du pape actuel. Quand le Saint-Père, dans le Lumen Orientale, montre qu'il faut à tout prix que l'Orient et l'Occident retrouvent leur unité. C'est le souci dominant du pape actuel, au point de vue ecclésiologie, comme l'unité. Cette unité-là. Or, nous ne pouvons rejoindre l'Orient que si nous comprenons ce primat de la famille et de la fécondité en Saint Jean. Si vous regardez le point de vue du peuple, alors c'est le point de vue hiérarchique, le point de vue loi qui est premier. Et c'est ça qui les agace souverainement. Alors, on ne doit pas le nier, il ne faut pas nier le point de vue du peuple, il ne faut pas nier le point de vue du peuple, de la loi, c'est bien évident. Il ne faut pas nier le point de vue de l'autorité. Mais attention, attention, c'est une autorité dans la famille, l'autorité du père. Et l'autorité du père est avant tout un service, c'est une autorité d'amour. Le père ne donne pas des lois, il donne des conseils. Et il marche devant. Et on le suit. Et à un moment donné, on ne le suit plus. Alors à ce moment-là, il y a une brisure. C'est sûr. Oui. Il est toujours un peu cause exemplaire, le père. Mais il est plus que cause exemplaire. Il monte. Et pour quand il s'agit de la très sainte Trinité, elle est source. Et le Père est toujours un peu source. Tandis que la loi n'est pas source. La loi n'a pas de fécondité. La loi, c'est on en a besoin parce qu'on est fragile. Alors on a besoin de la loi. Mais la loi n'est jamais première. Jamais. Tandis que la paternité est première. Vous voyez ? Et c'est bien le mystère de la fécondité. Vous avez raison de souligner ça. Je vous remercie pour bien montrer. Ce n'est pas du tout en opposition. Vous voyez, chaque fois que le pape parle, chaque fois qu'il y a un concile, il faut que le théologien se réveille. Alors les théologiens étaient un peu endormis par rapport à l'Église. Ça, il faut bien le voir. Alors on avait des conceptions diverses de l'Église. Moi, j'en ai vu deux sous mes yeux naître. Il y avait d'une part le père Journet, cardinal. D'autre part, le père Congar, cardinal. Donc tous les deux avaient des autorités. Et tous les deux avaient deux conceptions de l'Église. J'allais dire presque totalement différentes. Il n'y avait pas beaucoup de contact entre Journet et Congar. Pas beaucoup. Père Journet voulait faire une théologie scientifique de l'Église. Le père Congar avait saisi que c'est par le point de vue de la vie qu'on doit regarder l'Église. Et je crois que l'intuition du père Congar était juste. Ou ça branlait un peu dans le manche. Avec tout le respect que je lui dois comme cardinal. Mais le cardinal ne dit pas nécessairement la faillibilité, n'est-ce pas ? Il y a le cardinal Nicolas de Cuse dans la tradition, qui est un cardinal fameux au point de vue de la théologie, et qui dit des choses difficiles à accepter. Le père Congar ne saisit pas avec assez de netteté l'analogie de la vie au plan philosophique. Il la prend au niveau scientifique. Et je crois que c'est là où il n'a pas été assez loin. Vous voyez, c'est pour ça qu'il peut dire, et ça, il y a un petit livre du père Congar qui est très intéressant. Très intéressant pour voir la fragilité de son ecclésiologie. Vous voyez, c'est quand il a donné ce petit livre sur le laïcat qui termine toute sa théologie de l'Église. Alors c'est un essai théologique, il le dit lui-même, sur la théologie du laïcat. Quand ça a paru, ça a fait une manifestation qui fait que ce livre, on le voyait partout, jusque chez les cisterciens. Et c'était, au fond, quelque chose de très extraordinaire, alors que quand vous le regardez bien, et c'est intéressant à ce point de vue-là, vous voyez qu'au fond, il n'arrive pas à dire ce qu'il voudrait dire. Parce que il a cette formule, la vie est périphérique. Alors, vous voyez, l'analogie, la vie est périphérique. La vie n'est pas périphérique, puisque c'est l'âme qui est source de vie. Et l'âme n'est pas périphérique. Évidemment, elle se manifeste en dernier lieu, à travers la peau. C'est la peau qui est périphérique. L'âme est intérieure. Alors, si la vie est périphérique, l'Église ne vit que lorsqu'elle est en face de ceux qui ne sont pas de l'Église. Vous voyez ? Alors, tout l'effort doit porter là-dessus. Alors, on comprend très bien qu'à ce moment-là, le QG, l'organisation profonde de l'Église, est presque dans un état de mort. Il le dit pas, c'est sûr. Mais la vie est périphérique. Donc ce sont ceux qui sont en première ligne de combat, qui savent ce que c'est que l'Église. Il y a quelque chose de juste, comme toujours. Dans toute erreur, il y a quelque chose de juste. Mais ne construisons pas une Église à partir de là. Un traité de l'Église, vous voyez. Mais c'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant de regarder l'effort du cardinal Journet, que j'ai bien connu, que j'aime profondément. Le père Congar aussi, je l'ai bien connu, que j'aime profondément aussi. Parce que tous les deux ont été des théologiens qui ont travaillé comme chacun de façon très différente. Mais de vrais théologiens, par rapport à ce mystère de l'Église, dont ils comprenaient l'importance. Et que c'est vrai, le concile a été un concile sur l'Église. Ça, c'est sûr que c'est la réflexion actuelle. Vous voyez, on dit en gros que le XXe siècle, c'est la théologie de l'Église ou la théologie de Marie. Alors, on dit il y a les théologiens de l'ecclésiologie et il y a les théologiens de la mariologie. Il ne faut surtout pas séparer les deux. Il faut avoir une ecclésiologie qui est mariale, puisque Marie est mère de l'Église. Donc, elle est mariale, ne peut pas être autrement. C'est comme si on voulait faire une ecclésiologie sans le Christ, sans Marie. On ne peut pas. Alors c'est le peuple. Vous voyez, c'est le danger. Alors ce qui a été très significatif, et que personnellement j'ai aimé beaucoup, la réaction forte du synode des évêques d'Afrique, qui disent toujours l'église famille, l'église famille, l'église famille, c'était répété, le peuple a repris. Et ça, c'est très beau. Alors, je crois qu'il faut toujours, ce sont des analogies, il faut toujours garder en théologie toujours deux analogies et jamais en jeter une. On doit garder celle du peuple, celle de la famille. Ce sont les deux analogies fondamentales. On doit garder les trois et les dernières. On ne construit pas l'Église uniquement sur la fécondité, on la construit sur les trois. Et vous comprenez que le peuple, c'est là où on voit la famille et le temple, on voit l'aspect du fatuéré, du travail. Alors maintenant, autre chose, vous dites que dans l'adoration et la contemplation, on coopère en recevant l'amour du Christ pour nous, mais qu'il n'y a pas d'initiative de notre part. Comprenez bien, toujours un équilibre. La contemplation est premièrement recevoir la passivité. Premièrement, ça n'exclut pas du tout l'autre. Mais quand on fait des actes d'adoration, très bien, tout à fait d'accord, quand on cherche à être présent à Jésus, quand on lui dit qu'on veut l'aimer, mais oui, mais quand on dit qu'on veut l'aimer, on veut être dans une passivité que reçoit son amour. Ne peut-on pas dire que ce sont des initiatives de notre part pour essayer d'aimer plus, d'aimer Jésus? Tout à fait d'accord. C'est pas opposé, c'est un équilibre. Quand vous dites que la contemplation doit rejaillir dans la charité fraternelle, quel est ce devoir? Est-ce un lien de nécessité qui vient de la contemplation elle-même dans le mystère de l'amour de Dieu? Est-ce un lien de nécessité de la propriété? C'est pas une propriété. C'est un lien de nécessité essentielle de la charité. Saint Jean le dit admirablement dans sa première épître. Et Jésus aussi, quand il dit les deux préceptes sont qu'un. C'est net. Mais il y a un ordre. aimer Dieu, aimer le prochain. En aimant Dieu et en le contemplant et en l'adorant, il y a une nécessité interne d'aimer ceux que Dieu aime. Les initiatives de la charité fraternelle sont-elles des initiatives humaines ou alors sous le souffle de l'Esprit Saint? Sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est sûr. Marie, sous le souffle de l'Esprit Saint, a compris le signe que lui donnait l'ange. C'est sous le souffle de l'Esprit Saint. Est-ce encore une initiative? Oui. Parce que l'Esprit Saint a cette délicatesse extraordinaire de s'effacer tout le temps et de nous faire croire que c'est nous qui prenons l'initiative. Ça, c'est le propre de l'Esprit Saint. Comme Jésus. C'est le propre de Dieu. Il est tellement grand qu'il s'efface. Nous, on est tellement petit qu'on ne veut pas s'effacer. On est comme ça, quoi, voulez-vous, c'est sûr. Et quand on nous ouvre. Je voulais d'abord avec vous, parce que je crois que ce qu'on a dit hier est toujours ce qui doit être premier dans notre regard. Mais en comprenant bien que je n'exclus pas le peuple, je vous l'ai dit. Mais vous voyez, il y a une espèce d'affinement très mystérieux. Le peuple dans l'Ancien Testament qui est affiné, analysé, et c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous le donne. L'époux et l'épouse. Ce qu'il y a de plus précieux dans un pays, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse. Un pays qui ne tient plus compte et qui laïcise l'amour de l'époux et de l'épouse, le mariage et la mairie, eh bien est un pays qui est voué à ne plus avoir de fécondité. Les prophètes l'ont dit et ils ont raison, et c'est comme ça. Parce que la fécondité relève de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de la fécondité. Alors si vous boudez et que vous dites non, non, c'est nous, tu verras. Mon petit, tu me comprendras comme ça. C'est extraordinaire, ça. Vous savez, là, on joue l'enjeu ultime actuellement. Faut bien le comprendre. Et c'est cet enjeu de la fécondité. Ça, tout, si on sait lire l'Écriture et si on sait avoir un regard de théologien sur l'Écriture, ce que je vous ai dit hier, je crois que vraiment, c'est la fine pointe pour le mystère de l'Église. Et tout s'explique quand on regarde là. On comprend toutes les luttes. Ça s'explique, vous voyez. Ça, on comprend mieux, quoi. Voilà. Le mystère demeure. C'est le grand mystère de la fécondité, de la très sainte Trinité. Alors, comprenons que nous avons un triple regard ou quatre regards. C'est peut-être plus juste. Donné par l'Esprit Saint sur notre relation au Christ, sur la relation de chaque membre de l'Église et de l'Église elle-même. Pour comprendre le mystère de l'Église, il faut regarder ces quatre relations. Vous les comprenez? Elles sont faciles à saisir maintenant, une fois qu'on a maintenu les trois et quatrième. Nous allons les regarder rapidement. Parce que ça, c'est toute la théologie de l'Église. L'Église, le Christ est pour l'Église tête. C'est vrai, tête, donc premier. L'Église, le Christ est pour l'Église époux. Pierre angulaire. Pierre. Et plus de la vinée du tronc pour la fécondité. Voyez, ce serait très intéressant. Je dis ça pour les théologiens. On est tous théologiens en herbe. Et ça veut dire de regarder les diverses causalités. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. C'est quand je vois ça, je vois que l'Esprit Saint parle avec nous sérieusement. Alors, il nous donne des diverses causalités. Vous n'avez qu'à regarder. Hein. Les membres, les parties à l'égard de la tête, le corps relativement à la tête. C'est intéressant. L'épouse reliée à l'époux. Et puis, la pierre angulaire. Alors, évidemment, tout cela, c'est dans la foi, l'espérance et la charité. C'est des liens par les vertus théologales. Mais vous voyez bien que le lien de l'époux et de l'épouse, c'est la charité qui domine. Le lien de la pierre angulaire et des autres pierres, c'est le point de vue beaucoup plus organique, mais d'une organisation très, j'allais dire très forte. C'est bien la cause matérielle. L'époux et l'épouse, la charité, c'est bien le point de vue de la cause formelle et finale. Et le point de vue de la tête et du corps, causalité efficiente du vivant. Et donc l'espérance. Fondamentale la foi. C'est pas la cause matérielle, hein, comprenez bien. Mais c'est fondamental, c'est premier. Vous voyez, avec tous ces liens-là à étudier, et qui sont toute la structure de notre vie chrétienne. Je suis pour le Christ un membre. Alors, posez la question au Saint-Esprit, quel membre ? Je suis pour le Christ épouse, est-ce que je le suis vraiment ? Est-ce que vraiment j'ai choisi le Christ ? Je suis pour le Christ une pierre sur laquelle il peut compter. Des pierres vivantes, voyez. Et en dernier lieu, le point de vue de la vigne, la fécondité. Avec la taille du Père pour la fécondité. Vous voyez, c'est dans le dernier que la taille du Père est la plus forte. Et c'est vrai que quand on est en face de ce mystère, on comprend mieux le point de vue de la paternité. Parce que la paternité, c'est toujours le point de vue de la fécondité. C'est le Père. La tête, c'est le Christ. Le Verbe devenu chair. L'époux et l'épouse, c'est bien l'Esprit du Christ. Idem velle, le même vouloir, l'Esprit Saint. Et la pierre angulaire, c'est encore le Christ. C'est curieux, comme la très sainte Trinité nous est donnée à travers ces différents liens. Vous voyez ? Et là, nous voyons ce que c'est que l'Église vivante. Parce que je vis dans la mesure, je vis chrétiennement, dans la mesure où je suis relié à la tête, dans la mesure où je suis relié à l'épouse, à l'époux, dans la mesure où je suis relié à la pierre angulaire. Vous voyez, la stabilité, c'est d'être proche de la pierre angulaire. Parce que quand vous êtes tout en haut, très loin de la pierre angulaire, hein, c'est ça quand on dit que la vie est périphérique, la pierre angulaire. C'est pas périphérique, la pierre angulaire. C'est fondamental. Il y a toujours cet aspect de revenir au fondement. De revenir tout le temps à la racine. Et puis le point de vue de la vigne. Oui, c'est à travers cela que je peux comprendre ce qu'est ma vie chrétienne. Or, l'Église ne se comprend intérieurement que dans la mesure où je suis un croyant. L'Église ne peut absolument pas être vue par un incroyant. Il ne voit que la manifestation extérieure. Oui. C'est pour ça qu'on dit l'histoire de l'Église, attention, l'Église c'est la tradition. Beaucoup plus que l'histoire. C'est la tradition, avec le conservare et le renovare. On reprend toujours. Donc c'est la première chose qu'on doit voir, que l'Église n'a d'intelligibilité, n'a de vie, n'a de lumière et d'amour que dans la mesure où les morts sont liés à la tête, à l'époux, à la pierre angulaire, à la vigne. C'est très très important de comprendre ça. L'Église ne peut pas être considérée pour elle-même. Oui, c'est le danger d'une ecclésiologie qui risque tout le temps de regarder le logos de l'Église. Le logos de l'Église, l'intelligibilité de l'Église est toute relative au Christ. Ça, je crois que c'est capital pour nous de comprendre ça. C'est très vrai que dans la lumière du Christ, l'Église est complémentaire du Christ. Le plérôme. Le plérôme, il est dans le corps, il est dans l'épouse, il est dans les pierres, il est dans la fécondité. Alors l'Église est vraiment plérôme. Et c'est pour ça que quand je dis que toute l'intelligence de l'Église vient du Christ, c'est très vrai. Mais en même temps, il y a le regard du Christ sur l'Église. Et l'Église, et Jésus regarde l'Église pour elle-même. Et ça, c'est vrai. Comme le Créateur regarde l'homme pour lui, le Christ regarde l'Église pour elle-même. Ça, c'est un regard de sagesse dans la lumière du Christ crucifié. Il regarde l'Église pour elle-même parce que l'Église a son organisation propre. L'Église a son amour particulier et sa fidélité propre d'épouse. L'Église a son organisation propre de pierre qui se repose sur la pierre. Et l'Église a sa fécondité propre. Oui, donc il y a toujours ce double aspect. Et je crois que ça, c'est très très important de comprendre ces deux aspects. L'Église toute relative à Jésus et le regard du Christ sur l'Église. Parce que Jésus offre l'Église au Père. Et donc l'Église, c'est pas rien. L'Église, c'est tous ceux qui sont rachetés par le Christ. C'est tous ceux que le Christ veut qu'ils soient le plérôme du Christ. Et tout cela pour la gloire du Père. Alors là, nous découvrons à l'intérieur même de l'Église, voyez, le rythme de l'Esprit Saint qui est double. L'Église est toute relative au Christ. Et l'Église est regardée par le Christ comme une réalité vivante, organique, ayant sa fidélité propre et son amour propre d'épouse, ayant sa propre fécondité. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas oublier cela. Mais vous comprenez que cela est second. L'Église est d'abord et en premier lieu toute relative au Christ. Puis vous regardez le fondement de cette relation. Et le fondement de cette relation fait que Jésus regarde l'Église comme un tout organique, donc comme une personne. Et toutes les qualités de la personne, donc il y a une certaine autonomie. L'Église regarde l'Église comme l'épouse. Or, l'époux regarde l'épouse. Comme Jésus regarde comme la pierre angulaire regarde toutes les autres pierres. Et l'Église, et Jésus regarde l'Église comme celle qui permet cette fécondité constante allant toujours plus loin. Donc n'oubliez jamais ces deux regards. Parce que c'est capital. À la fois la dépendance de l'Église, et l'Église est aimée pour elle-même. Oui, c'est toujours la même chose. Au fond, c'est le grand problème de l'amour et du mystère de l'amour. L'amour, j'aime le Père et j'aime mes frères. Et je les aime pour eux-mêmes, tout en sachant que je les aime à cause du Père et à cause de Jésus. Mais je les aime pour eux-mêmes. C'est le problème indéfini. Quand quelqu'un vous dit « Oui, vous m'aimez à cause du Christ, donc vous ne m'aimez pas. » Pas du tout. Je vous aime à cause du Christ, c'est très vrai. Parce que le Christ vous a aimé. Mais vous aimez comme le Christ vous aime, si vous aimez pour vous-même. Eh bien, l'Église aime l'Église pour elle-même. Et si l'Église, le Christ aime l'Église pour elle-même, il l'aime donc dans son organisation de corps vital, comme épouse. Parce qu'autrement, on ramènerait l'Église uniquement à une relation. Ce qui serait faux. L'Église a un corps, l'Église a une âme, l'Église a une structure. Et l'Église a sa propre fécondité. C'est très extraordinaire, ça. Mais ça, et c'est tout le temps là que vous regardez cela. Ces quatre aspects de l'Église. Dans cette double relation. S'il y a cette double relation, c'est parce que justement, il y a une véritable amitié. Celui qui dit l'ami, il est tout entier relatif à moi. Vous tuez l'ami. L'ami est tout entier relatif à moi, c'est vrai, mais je suis tout entier relatif à lui. Autrement, je ne suis plus son ami. Ça, c'est la charité. Le Père est source de tout le Fils, et le Fils est totalement relatif au Père. Et le Père est totalement relatif au Fils. Double relation. Eh bien, c'est vrai pour l'Église, parce que c'est l'Église de la très sainte Trinité. Alors, il y a toujours ces deux regards. Ça, c'est capital. Hein, et c'est la conséquence de ce que nous avons vu hier. Direct. J'ajoute un autre point.